RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toi supporter de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans le podcast After OL avec cette semaine. Coach Courbis, salut coach.
Salut les amis.
Et notre correspondant à Lyon, Édouard G. Salut Édouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour à tous.
Alors c'est pas facile, mais on va essayer, coach Édouard, de faire un podcast positif sur l'Olympique Lyonnais. C'est pas évident, évidemment.
Ce sera le premier de l'année, non?
Premier de l'année, peut-être pas le dernier, j'espère pour toi aussi mon cher Édouard, car ça t'offre pas mal de boulot également. Quels sont les motifs d'espoir à Lyon pour vivre des jours meilleurs? Question que je vais vous poser. Pour s'extirper de la zone rouge et s'installer dans le milieu de tableau de Ligue 1, vous allez devoir trouver des idées, être créatif, coach et Edouard. On va parler aussi du mercato d'hiver pour l'OL, solution miracle selon John Textor. Je sais qu'Edouard et coach, hein, vous avez des idées. Réponse dans un instant, vous écoutez le podcast After Lyon. C'est parti. Alors avant qu'on parle espoir, lumière, je commence par l'obscurité. Lyon, vous le savez, je le rappelle, est dernier de Ligue 1, un match en moins, programmé, on l'a appris, le 6 décembre contre Marseille. Les conditions et lieu de ce match n'ont pas encore été déterminées. Lyon, à l'heure actuelle, est à 7 points du premier non relégable Lorient. Lyon a 3 points, Lorient a 10. Calendrier de Lyon, il fait peur. Bon, Metz dimanche pour commencer. Puis attention, Rennes, Lille, Lens, Marseille, Toulouse et Monaco. Voilà pour le calendrier lyonnais d'ici la mi-décembre.
Et là, après Monaco, c'est la fin des matchs allés.
Non, il reste encore quelques matchs encore. Je vais donner le calendrier dans un instant. Ça, c'est la version Halloween, messieurs, de Lyon. Passons à la version plus positive. Aujourd'hui, à quoi Lyon peut se raccrocher pour espérer des jours meilleurs? Coach, est-ce que tu as vu, toi, notamment sur la dernière sortie ou depuis que Fabio Grosso est arrivé, eh bien, des raisons d'espérer du mieux dans les semaines suivantes qui viennent pour l'OL?
Ben, je reviendrai tout simplement au match de Clermont.
D'accord.
Le match de Clermont.
Malgré la défaite de l'OL, je rappelle.
Oui, qui a été considéré comme catastrophique. Pardon. Donc, ben, moi, je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça, dans le contenu, dans le sens, évidemment, c'est une défaite à domicile contre Clermont qui est très mal classé. Ça ne peut pas être plus catastrophique. Mais la deuxième mi-temps de Lyon, je ne la trouve pas catastrophique. Hormis le fait en plus qu'ils ont gagné cette deuxième mi-temps 1-0. Et ensuite, je me dis, bon, il y a quand même des choses qui nous échappent. Doudou pourra nous en donner la raison. Par exemple, qu'on puisse démarrer avec Aku Oku, qui est un garçon très moyen pour moi, qui a beaucoup de progrès à faire. Et on lui souhaite évidemment de les faire, remplacé par Diawara, qui pour moi, je ne connaissais pas ce joueur. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce joueur-là? Il était, paraît-il, au Paris Saint-Germain. Tagliafico, arrière-gauche, on le punit d'un match. Il est champion du monde. Il a été, paraît-il, voir ses amis argentins. Il y a 2h30 de train dans un jour de
repos.
Eh bien, on peut lui mettre une amende et pas s'en priver quand même. Donc, sincèrement, beaucoup de choses, ben, je ne les comprends pas. Et ensuite, ben, j'étais inquiet pour l'OM, moi, dans ce match OM Lyon, parce que cette équipe de Lyon de la deuxième mi-temps contre Clermont, contre l'OM, qui venait de jouer contre la EK, ben c'était un match qui m'inquiétait.
Édouard, alors toi c'est intéressant parce que tu as vécu une saison pas similaire, mais parce qu'on n'y est pas encore, hein, qui pouvait ressembler il y a deux saisons. Dans ta région, c'est l'AS Saint-Etienne, version 2021-2022, relégué en Ligue 2, je le rappelle. Est-ce que tu ferais un parallèle avec l'OL de cette saison?
Non, parce que en fait, déjà à Saint-Étienne, on va dire que les feux rouges se sont allumés un petit peu tard dans la saison. On a un petit peu tardé, tandis que là, dès la préparation, même pas dès les premiers matchs, dès la préparation, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre la direction qui n'avait pas confiance en Laurent Blanc, les petits bruits qui sortaient par-ci par-là, et puis la préparation catastrophique et les premiers matchs. Donc là, il y a une prise de conscience qui est assez rapide. On se dit peut-être qu'à un moment donné, ben, la chance va tourner. Je complète ce que dit aussi coach pour le match de Clermont, parce que les entrants...
J'ai un truc à rajouter, mais je t'écoute attentivement.
Les entrants face à Clermont ont montré qu'il y avait quelque chose, quoi, en fait. Et pour faire le parallèle par rapport à Saint-Étienne, Nico, ben moi j'ai l'impression qu'il y a du pied quand même dans l'effectif qu'il y a à Saint-Étienne. Il y a quand même, à Lyon, il y a quand même de la qualité, peut-être plus de qualité qu'à l'époque à Saint-Étienne, et que pour l'instant quelque part, je dis pas que ça c'est là-dessus, mais il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de trouille que l'on ressent, donc un problème de confiance. Une fois que ça, peut-être, ça peut être évacué, ben peut-être qu'on va retrouver le sens du but, le sens des passes claquées, le sens de la confiance, et peut-être qu'on va arriver à faire ce que les Lyonnais ont fait face à Lorient. Ils étaient menés et ils ont finalement inversé la tendance. Je parle pour la première période, on ne parle pas de la deuxième. Donc oui, il y a quand même... pour compléter un petit peu, j'ai d'autres aussi raisons d'espérer aussi pour les supporters lyonnais, mais voilà pour compléter un petit peu ce que disait coach, et puis répondre à ta question par rapport à Saint-Étienne.
Coach, qu'est-ce que tu voulais rajouter justement ?
Mais rajouter qu'il y a quand même un grand point d'interrogation pour tout le monde. On entend de bonnes, de moins bonnes, de très bonnes, de pas bonnes, en ce qui concerne Cherki. Que Cherki ne puisse pas être un plus pour cette équipe de Lyon et pour cet effectif, y compris même en l'utilisant en accord avec lui, comme un joker de luxe, capable de rentrer dans les 30 dernières minutes d'un match contre des adversaires qui viennent de faire beaucoup d'efforts, en lui disant, bon, mais OK, dans un premier temps, il va falloir que tu t'améliores dans l'efficacité. Pour ce qui est de défendre, bah, écoute, tu vas te replacer le plus rapidement possible, mais ne lui demandons non plus pas des choses qui, pour le moment, sont tout simplement impossibles. Et de là à trouver la solution avec Cherki, de le mettre dehors d'entrée quand tu arrives, que tu es un nouvel entraîneur. Là, il y a des choses qui nous échappent, certainement, dans des comportements à l'entraînement, dans des dérapages, parce que sinon, je n'y comprends rien du tout. Et là, je cherche même plus à comprendre. Et ensuite, il vient, je suppose qu'on devait en parler, il vient de se passer cette catastrophe.
Tu parles le dimanche dernier, oui.
Cette catastrophe, ben, depuis qu'elle est arrivée, je n'entends plus parler de top, je n'entends plus parler de problèmes.
T'as raison.
J'ai vu des joueurs sortir du vestiaire avec ce magnifique survêtement blanc là, pour aller féliciter les 600
supporters lyonnais qui ont fait le déplacement.
J'ai vu Grosso en train de montrer le cœur avec l'écusson olympique de Lyon. J'y tiens, des fois, quand il y a un changement d'entraîneur, on attend un choc psychologique. Moi, j'y crois pas. Je pense plutôt à une amélioration footballistique. Mais là, il y a peut-être eu, on le verra dans les jours qui viennent et dans les matchs qui viennent, mais un clic,
c'est intéressant,
et un choc dans le comportement des joueurs et dans la relation joueur entraîneur. On parle plus là, ouais, du changement d'entraîneur, on parle plus de si
ça peut les souder, quoi.
Je pense que s'il y a quelque chose pour les souder, c'est malheureusement cette catastrophe qui est arrivée.
Oui, Nico, je vais prolonger, parce que ce groupe, on me l'a toujours décrit, et même avec ce qu'a tenté de faire, on en a parlé ici, Fabio Grosso, concernant les réveillés, mais l'encéphalogramme était toujours aussi plat. Mais voilà, peut-être que ça les a réveillés, et on va parler de ce mot à la mode depuis le Covid, la résilience. Quand on lit Jack O'Brien chez nos confrères d'Athletic, qui raconte de l'intérieur ce qui s'est passé. La plupart d'entre nous avaient leurs écouteurs sur les oreilles, nous écoutions de la musique, et tout d'un coup, il y a eu une grosse détonation, et on a entendu les pierres qui ont été jetées. On avait une envie forte d'aller sur le terrain et de se battre sur le terrain, dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est fou, hein. Donc, ça a peut-être réveillé les joueurs entre eux, ça les a peut-être soudés aussi par rapport à leur coach. Et puis, rajouter aussi quelque chose, parce que ça, c'est important à Lyon, peut-être plus qu'ailleurs, c'est que peut-être que ça a soudé, coach, tu faisais allusion à cette sortie là des joueurs sur le terrain qui sont allés saluer les supporters, ça a peut-être soudé
avec
aussi...
Avec un survêtement magnifique, je chambre pas, hein.
Non, mais effectivement, ça donnait cette unité. ce public qui est toujours là. Et on a vu une banderole aussi cette semaine, les Bad Guns, les BG 87. Bon rétablissement Fabio, c'était en lettres blanches sur fond noir devant l'entrée du centre à Décines, juste à côté du stade. Voilà, ça a soudé le public. On avait déjà vu qu'il y avait 44 000 personnes face à Clermont, le 17e face au 18e à 20h45 un dimanche. Ce dimanche, à 13h, il y aura au minimum 40 000 personnes.
Et autre chose,
donc, ça, ça peut être aussi quelque chose qui peut aider les joueurs. Non seulement ils ont du monde avec eux, mais ils ont surtout personne contre eux dans leur propre famille. Et ça, dans un passé récent, c'était pas forcément évident.
Et autre chose, Doudou, rassure les supporters lyonnais, si Tagliafico fait un petit écart, eh bien, un écart qui n'est pas catastrophique quand même, hein, 2h30 de train.
Sur un jour de repos.
Pour voir les Argentins, ok.
La Coupe du Monde est terminée.
C'est quand même un champion. Oui, mais lui, c'est quand même un champion du monde. Donc, tu, dans la situation de Lyon, tu lui mets une amende, mais tu ne le punis pas en lui mettant un coup de pied au cul pour un match.
Tu as constaté qu'il était dans le groupe pour Marseille quand même. Il y était dans le groupe, donc voilà, c'est passé.
Là, il y a une autre donnée qui peut être aussi positive, c'est que Fabio Grosso, là, clairement, il fait confiance à son premier cercle, c'est-à-dire ses adjoints, et il coupe un petit peu son groupe de tout l'extérieur. C'est un petit peu ça, la chasse à la taupe la semaine dernière, mais aussi par rapport à sa direction. Il a compris que la direction, pour l'instant, parce que Santiago Cucci est sur le départ, Vincent Ponceau est en plein mercato, il va aller avec les filles, mais il fait encore le job, hein, mm-hmm. Vincent Ponceau, par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, il a vu qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur la direction parce que c'est injouable pour le moment, il y a un énorme chantier. Du coup, ben, il a rassemblé tout le monde autour de lui, et tout ce groupe est vraiment en circuit fermé, en disant, ben voilà, maintenant, on va y aller au charbon, il faut qu'on gagne des match. Le problème, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, il va falloir faire des points, hein, parce que pour l'instant, tu l'as rappelé, il n'y en a que 3 en 10 journées.
En 9 journées.
Avant d'arriver à un éventuel mercato et un éventuel renfort,
il faut des points.
C'est difficile aussi de se priver de Cherki, ne serait-ce que pour les 30 dernières minutes, et de ne pas donner des suspensions, des punitions à Tagliafico. Sincèrement, Lyon n'est pas au milieu du tableau. On ne peut pas se permettre ça. Surtout que ce n'est pas catastrophique ce qu'a fait Tagliafico.
Ça t'a marqué, j'ai l'impression, coach. Ça t'a marqué.
Ah, mais ce n'est pas que ça m'a marqué. Le réflexe que j'ai, c'est après, quand on fait connerie sur connerie, ben, ne soyons pas étonnés. Donc, et là, ben, j'ai dit, au moins qu'on trouve quand même de quoi et comment utiliser Cherki, ou alors sincèrement, il y a des choses qui nous échappent sur Cherki et que pour le moment, on ne connaît pas.
Alors parlons du mercato, hein. C'est John Textor qui l'a rappelé, alors lui il est tout à fait serein, hein. Il y a encore 15 jours, il trouvait qu'on s'alarmait un peu vite, hein, de parler de maintien à Lyon. Il dit, mais attention, il y aura un mercato d'hiver et on va pouvoir y aller, on va pouvoir envoyer. Edouard et coach, hein, je vous pose la question suivante. S'il y a une priorité aujourd'hui dans le 11 lyonnais, où est-elle ? Quel profil faut-il recruter ? Coach, je commence avec toi.
Moi, je pense un joueur en plein cœur de l'équipe, à savoir un genre de 8, un Matic là, qui a expérimenté, qui a signé à Rennes, 34-35 ans, pour venir un petit peu mettre de l'ordre. Et après, ben, un attaquant capable... d'aller vite, capable d'être complémentaire avec la casette. Donc, et là, à ce moment-là, en ce qui concerne la défense, que ce soit les arrières latéraux, que ce soit le côté gauche, que ce soit les arrières centraux, gardiens de but, les numéros 6, il y en a. Donc, voilà les deux joueurs que je verrai.
Dans le cœur du jeu. Edouard.
Oui, ben dans le cœur du jeu aussi, parce qu'on l'a bien vu, ce match référence d'une certaine manière face à Clermont, on l'a bien dit, hein. Maitland-Niles et puis Akoku, au milieu de terrain, ça fait pas l'affaire, et c'est, à mes yeux, dans ce que j'ai vu récemment, et même de quelques années à suivi l'OL, c'est le pires milieux que j'ai pu voir en termes de complémentarité, de qualité de pied. Donc là, c'est clairement quelqu'un au cœur du jeu et quelqu'un qui n'est pas connu la descente avec un club et qui soit dans une bonne dynamique et qui ne vienne pas d'un autre continent, parce que là, il va falloir vite se faire au club et puis à tout ce qu'il faut amener un petit peu. La bonne pioche à l'époque, c'était, alors dans un autre niveau et de financement et de classement, c'était un Bruno Guimaraes juste avant le Covid en février. Non, mais c'est quelqu'un qui arrive tout de suite. Alors là, c'était la bonne pioche magnifique, hein, parce que même s'il venait...
Il n'y en a pas un du côté de Botafogo, là.
Bah oui, mais le problème, c'est que Botafogo, il risque d'être champion du Brésil. Et donc, ça veut dire qu'ils vont faire la Copa Libertadores. Et attirer un joueur en plein hiver, venir à Lyon, qui va jouer le maintien par rapport à, éventuellement, avec Botafogo, qui va jouer la Copa Libertadores, il va falloir que John Textor soit bien persuasif pour ce joueur-là. Et on a bien vu l'année dernière, Jeffinho, ça n'a pas forcément été une réussite, parce qu'il faut s'acclimater. Récemment, d'ailleurs, dans une conférence de presse, il nous disait, oui, ben, j'ai découvert et je découvre encore que le championnat de France, c'est difficile et qu'il y a beaucoup d'intensité.
La question, c'est savoir qui est-ce qui va diriger ce recrutement à Lyon cet hiver, hein. John Textor ou ses adjoints, en tout cas Mathieu Louis-Jean par exemple, hein, qui a la tête.
Je pense que Grosso aura son mot à dire.
Grosso aussi, avec Mathieu Louis-Jean.
Et la DNCG aussi aura son mot à dire, parce que pour l'instant, hein, c'est toujours pas levé. Et je rappelle toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'OL, rapport au transfert, au process de transfert d'Ernest Nuhama de Nordjylland à Molenbeek et ensuite son prêt à l'OL. Donc tout ça fait quand même beaucoup de brouillard autour de tout ça.
Il n'est pas passé par Botafogo.
Non.
Ah ben
non,
ça
non,
va.
Non. Bon, et comme si John Textor n'avait pas assez de soucis à gérer en ce moment. En plus, il essuie une plainte de la Fédération brésilienne de football, hein, pour avoir accusé de corruption l'arbitre du match de son équipe Botafogo la nuit dernière.
Oh là, il n'est pas allé par quatre
face chemins. À Palmeiras. Hein.
Face à Palmeiras.
Carrément corruption.
Oui, quand même. Et c'est vrai que ça fait beaucoup réagir à Lyon aussi, son degré d'application, d'émotion à Botafogo. Par rapport à celui qu'il peut avoir à Lyon, Edouard. Je disais pas mal de réactions de supporters lyonnais qui disaient « Attends, le gars, il n'est pas avec nous alors qu'on est en pleine crise. » Là, il va être champion avec Botafogo. Et il se bat encore plus au bord du terrain, là. Il vient après le match au bord du terrain pour hurler ce qu'il n'a pas vraiment fait
à la fin
soit
d'un
à Marseille,
match.
Soit
à la fin d'un match. On peut quand même lui signaler, puisqu'il découvre un petit peu le football. J'ai l'impression que quand il y a un arbitre qui fait contre ton club, appelons ça un mauvais arbitrage. Mais tu peux laisser le mot corruption de côté.
Exactement.
Tu peux dire, tiens, bon, après déjà de se lâcher, comme souvent on le fait, wow, on s'est fait voler, machin, etc. C'est déjà énorme. Mais en plus, corruption. Alors, je dis, bon, mais ça va.
C'est ce qui fait dire à certains supporters lyonnais qu'il y a plus de passion chez lui quand il s'agit de Botafogo que Lyon pour l'instant.
Allez, pourquoi pas.
Ouais, il y en a même qui sont à même aller compter le nombre de posts Instagram qu'il fait régulièrement sur Botafogo, et il en fait très peu sur l'OL. On est allé jusque-là, et c'est Sidney Govou, hein, qui aujourd'hui, dans un tweet, a répondu en disant « J'aurais aimé avoir ce genre de sortie pour l'OL plutôt que de répondre que tout va bien après Clermont et que tout le monde voulait jouer le match après Marseille. » Voilà, ça fait un petit peu grincer des dents. Bon, du côté des broches de John Textor, on nous dit à l'époque, quand c'était Jean-Michel Aulas, vous nous disiez que ça tweetait trop, ils étaient trop présents sur les réseaux, et maintenant vous dites que c'est pas assez. Il faudrait vraiment savoir aussi et trouver un juste milieu entre le trop et le pas assez, quoi, en fait.
Voilà, bon, j'espère qu'on a donné un peu de baume au cœur à ceux qui en avaient besoin à Lyon après ce podcast. On sera de retour la semaine prochaine pour débriefer notamment le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz.
Ouais, et ce match a été placé.
Le match de la peur.
Ce match a été placé en plein milieu de deux matchs. Au lieu d'avoir une semaine tranquille pour préparer le deuxième match, ben, tu auras Lyon-OM au milieu.
Exactement. C'était l'After Lyon avec Coach Courbis et Edouard G. À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
RMC After Lyon.